C'est l'été sur France Musique.
Et l'été, c'est les festivals de musique qui accueillent tous les musiciens que nous recevons dans Musique Matin tout au long du mois de juillet et du mois d'août. Ce matin, je suis en compagnie de Stéphane Fuget. Bonjour.
Bonjour Clément.
Stéphane, qui a une grosse actualité en ce moment avec d'abord samedi 24 juillet à 21h au Festival de Beaune avec son ensemble Les Épopées. Il donnera sa version du retour d'Ulysse en sa patrie de Monteverdi. Ce sera un spectacle d'ailleurs à suivre en direct sur France Musique. Un autre concert un petit peu plus tôt le 18 juillet à 21h, des airs d'opéra de Handel, de Vivaldi, de Purcell avec Paul-Antoine Benozdian, un jeune contre-ténor qu'on aime beaucoup. Et puis il y a eu deux sorties de disque cette année, en février et en avril, un disque Lully et un disque Couperin dont on reparlera. Voyez que j'ai bien révisé mon sujet pour ce matin, Stéphane. Alors, on va parler d'abord, je rebondis sur La Fontaine dont on entendait les fables. Ça, c'est vraiment typiquement l'époque et le texte de l'époque sur lequel vous travaillez habituellement, hein, 17e siècle.
Ah oui, beaucoup 17e siècle et 18e siècle. On va d'ailleurs faire des petits programmes dans les jardins parisiens. On a 6 petits concerts dans l'été autour des fables de La Fontaine. Vous savez qu'elles ont été aussi mises en musique, enfin pas exactement les textes, mais les textes ont été un peu adaptés, style fable de La Fontaine, on pourrait dire, par des compositeurs déjà à l'époque.
Ah ouais. Est-ce que vous allez le faire en prononciation restituée?
C'est une bonne question.
La cigale et la
fourmi. La cigale et la fourmi et à chanter.
Bon, bah écoutez, on suivra ça. En attendant, moi, je voudrais vous parler d'abord et en priorité de ce retour d'Ulysse en sa patrie. D'abord, c'est votre première collaboration avec le Festival de Beaune et puis une collaboration qui va se poursuivre, hein, sur 3 saisons, c'est bien ça?
Oui, on va faire les 3 opéras de Monteverdi. J'aurais préféré dire les 7 ou 8 opéras de Monteverdi, puisque les autres, on les a plus, malheureusement. Mais, ou alors, ils sont cachés dans des bibliothèques. Tout le monde rêve de les retrouver. Oui, sérieusement, on fait Ulysse cette année. On fait Orphée, pour les 40 ans du festival, d'ailleurs, l'année prochaine. Et on fera Le Couronnement de Poppée pour finir. On aurait dû déjà faire l'année dernière, Ulysse, en fait.
Oui. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? C'est marrant. C'est une question que tout le monde se pose.
Enfin, j'ai un trou.
Moi aussi. Stéphane Fuget, est-ce qu'on peut parler un petit peu du contexte de la création de cet opéra, Le Retour d'Ulysse en sa patrie? On n'est plus dans les cours, hein. Là, on est dans l'opéra public.
Oui, on est effectivement pour une partition qui a été donnée à Venise, avec en général un tout petit effectif instrumental et un plateau de chanteurs qui représente déjà une très très grosse partie du budget global, je crois.
Ouais. Parce que en fait, le Retour d'Ulysse en sa patrie, ça vient après l'Orfeo.
Ça vient très tard après l'Orfeo. Il y a eu Ariane tout de suite après, puis il y a eu d'autres opéras. Orfeo, c'est le tout début, c'est 1607. En fait, on est dans les derniers opéras de Monteverdi, et le génie de Monteverdi tout au long de sa vie, c'est évidemment d'être capable de s'adapter au nouveau style et de se transformer. Il naît dans la Renaissance et il propulse avec tous les autres compositeurs, hein, de son temps, il propulse la musique dans le baroque. C'est un véritable changement de pensée qui va très certainement avec le changement de pensée d'un Galilée, par exemple. Mmh. Et ça pose la question de qu'est-ce que c'est que la place de l'homme à cette époque-là. Ulysse, c'est évidemment ce sujet-là par excellence. Quelle est la place de l'homme, de sa propre place à lui? Qu'est-ce que c'est que sa vie? Qu'est-ce que c'est que revenir à la maison 20 ans après?
Et alors, musicalement, moi, la question que je me posais, parce que souvent, les gens préfèrent l'Orfeo, par exemple, au Retour d'Ulysse en sa patrie. Ils trouvent que ça sonne mieux, que c'est plus généreux, il y a des chœurs. Qu'est-ce qui explique cette évolution stylistique entre ces deux opéras?
Bah, en fait, on part d'un divertissement qui vient de la Renaissance, effectivement, a encore des chœurs et des ensembles. Et on va vers un autre divertissement, puisque c'est toujours du divertissement, même s'il est public, qui lui va avoir des sujets plus proches des gens, on va dire. Mmh. Peut-être. Hein, on voit bien avec Poppée qui arrive et qui est un sujet politique. C'est la première fois dans l'histoire de l'opéra. Et surtout, ce qu'on a transformé, c'est la manière de raconter l'histoire. C'est-à-dire que plus ça va, plus on diminue ces fameux chœurs. Il y en a très très peu dans Ulysse. Il y en a surtout un à la fin. Tout petit d'ailleurs, et parce que ce qui nous intéresse, c'est la tension psychologique entre les personnages.
Alors on va écouter un extrait, un premier extrait du retour d'Ulysse en sa patrie. On va écouter non pas l'Orfeo, mais le retour d'Ulysse en sa patrie. C'était un extrait un peu plus long, alors vous ne l'avez pas encore enregistré, donc j'ai choisi de manière totalement arbitraire Stéphane Fugey. Peut-être que vous n'aimerez pas du tout, mais voilà, vous avez... c'est super, on pourra le diffuser. On va écouter un extrait enregistré par la Veneziana de Claudio Cavina. C'est un des monologues les plus importants du retour d'Ulysse en sa patrie, c'est le monologue d'Ulysse. Dormo ancora avec la voix d'Anicio Zorzi Giustiniani.
Falsissimi feaci, sempre voria nemico, e sia siam qual più mal vecchio spoglignare le vostre infide navi, le ceri agli acuitori e l'aure gravi.
Voilà, un extrait, c'est le grand monologue d'Ulysse dans Le Retour d'Ulysse en sa patrie au premier acte, avec la voix ici d'Anicio Zorzi Giustiniani, l'ensemble La Venexiana de Claudio Cavina. Alors on va le redire, hein, c'est pas du tout votre vision esthétique de la chose, mais il faudra attendre le mois de décembre peut-être pour avoir votre enregistrement à vous. En tout cas, on pourra la découvrir, votre interprétation, au Festival de Beaune le 24 juillet à 21h pour les festivaliers et pour les auditeurs de France Musique en direct. On va donner quand même la distribution, mais vous avez une belle distribution. Valerio Contaldo en Ulysse, Antea Pichanik, exceptionnel mezzo-soprano dans le rôle de Pénélope. On aura aussi Mathias Vidal dans le rôle de Télémaque, Anko Yukawa, Ayako Yukawa, et puis plein d'autres chanteurs, ils sont nombreux. Marie Perbost aussi dans le rôle de Junon.
Cyril Ovitti,
bah oui, grand baroqueux.
Claire Le Filiatre.
Ah ben oui, bien sûr aussi, car le filiatre, je voulais pas tous les citer parce que ce serait trop long. Ambroisine Bray aussi, on peut tous les dire, bien sûr. Il faudrait tous
c'est
les citer.
Exceptionnel.
Et votre ensemble, les épopées. Alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le style de cet opéra de Monteverdi. Vous avez évoqué tout à l'heure cette sorte de révolution esthétique presque copernicienne qui a lieu à l'époque de Monteverdi. On a du mal à distinguer presque des airs. On a l'impression que c'est presque un continuum dramatique, que c'est pas vraiment fait pour être totalement chanté.
Ouais, alors plus on avance, plus on avance dans le XVIIe siècle, plus on va avoir des airs. Et à la fin, les récitatifs seront très très courts et il y aura de plus en plus d'airs. Il y aura des opéras avec 80 airs. Le propos, c'est effectivement de se dire quand on parle à un autre personnage, quand l'histoire se déroule comme ça, donc dans les récits, jusqu'où peut-on aller dans le parler, en fait, jusqu'où peut-on faire passer devant la parole et la déclamation, hein. C'est tout le questionnement. Perry commence déjà en 1600 dans la préface de l'Eurydice. Il dit une chose intéressante. Il dit, je vais écouter les Italiens parler. Et alors, j'entends des notes qui fonctionnent avec des accords. Puis j'entends des notes qui fonctionnent pas dans ces accords-là. Et vraiment, son référence, c'est la langue parlée italienne qui est déjà extrêmement musicale. Et donc, il y a évidemment pas de notation possible de façon musique contemporaine. Même le Pierrot Lunaire se pose une espèce de limite dans la notation avec les croix notamment. Mais c'est vrai que ce recitar cantando, cette prédominance du parler avec une voix chantée, fait que l'action se déroule à une vraie vitesse de parler. Hein. Les textes sont très très clairs à cette époque-là. Il y a deux types de récitatifs. Il y a les récitatifs qui doivent aller aussi vite que quand on parle. Et puis il y a les récitatifs qui doivent être plus lents et qui correspondent en général à des monologues. On a eu celui d'Ulysse, là. C'est la même chose pour Pénélope, qui correspondent à des moments un peu introspectifs du personnage, en fait.
Et donc, vous, votre travail, hein, depuis plusieurs années, c'est de pousser encore plus loin que tous les autres cette dimension parlée.
C'est d'essayer de faire passer cette parole en premier, effectivement. Mais c'est une question qu'on ne se pose pas chez Rossini, par exemple. C'est-à-dire, traditionnellement, les chanteurs, quand ils chantent Rossini, ils lâchent les notes pour faire les paroles. Le texte mange la musique, quelque part. Chez Monteverdi, évidemment, il y a aussi une musique très très forte, et donc la balance doit être assez subtilement réalisée pour pas être évidemment sur quelque chose qui n'est rien à voir avec ce qu'a écrit Monteverdi, parce qu'il faut être extrêmement près de ce qu'a écrit Monteverdi.
De toute façon, on peut dire d'une certaine manière que Monteverdi induit cette primauté du texte. On dit souvent prima la musica, prima le parole. Alors là, c'est vraiment le primat du texte, parce que il invente lui-même un style. C'est ça qu'il appelle le stile concitato. Ça veut bien dire qu'il essaye musicalement de se calquer sur les émotions du texte.
Oui, c'est ça. C'est un rapport à l'émotion. Il cherche à traduire avec la musique la puissance de l'émotion. On est déjà un petit peu plus tard, hein, on est un peu avant Ulysse, mais on est plus tard que Perry quand il parle de ça. Mais c'est vraiment la bascule d'une pensée mathématique de la musique, quelque part, de la Renaissance, héritée du Moyen-Âge, et puis une pensée totalement émotionnelle de la musique.
Sassi agli lamenti rispondeva a partiti e posi
ti pantato e tua volta in testa in guai di ti allora non ti sembrai più un altro scotolato Fissi già me sto e dolente Fissi già me sto e dolente Or gioisco e quegli affanni Che sofferti ho per tant'anni Fan più caro il ben presente Fissi già me sto e dolente Fissi già me sto e dolente Dopo il qual vi più contento, dopo il mal vi più felice, sol per te belle Euridice, sol per te belle
Alors ça, c'était un extrait de l'Orfeo de Monteverdi, la ritournelle d'Orfeo, deuxième acte, Vi ricorda o boschi ombrosi, avec la voix de Zachary Wilder, l'ensemble Clématis. J'ai choisi ce disque, alors c'est pas, encore une fois, c'est pas votre esthétique, ni celle des épopées, mais à l'époque, c'était vous, au clavecin, sur cet enregistrement de la musique de Monteverdi. On va essayer de faire un pont avec une autre actualité que vous avez, les deux disques qui sont sortis au mois de février et puis au mois d'avril, de musique baroque française, pour le coup. Et pendant qu'on écoutait cette musique, Stéphane Fuget, on se disait, tiens, c'est étonnant parce que chez Monteverdi, chez Cavalli encore, c'est le récitatif qui est vraiment le cœur du drame, le cœur du théâtre. On se disait, s'il avait voulu écrire des airs, il les aurait écrits. Non, c'est vraiment du récitatif et conçu comme tel. Et dans l'histoire de l'opéra italien, il s'est presque un petit peu étiolé, devenu une chose un petit peu ennuyeuse qui permet simplement d'aller d'un air à un autre, ce qui est aujourd'hui le moment le plus important pour le public de l'opéra romantique italien. C'est l'air qui intéresse tout le monde. Ouais. Alors que paradoxalement, est-ce que la musique française, elle, à la même époque, au XVIIe, est-ce qu'elle n'aurait pas capté cette idée du récitatif, ou du récit en tout cas ?
Bah, on sait qu'on dit que Lully est allé écouter la Chambellée, qui était la grande tragédienne racinienne de l'époque, ce qui veut dire qu'on a une espèce de référent qui ressemble à Péry en train d'aller écouter les Italiens. Mais ce qui se passe, c'est que petit à petit, l'harmonie en fait va manger le récitatif. On voit bien chez Rameau et cette obsession de la pensée harmonique. Ce qui l'intéresse, c'est les dissonances. Ce qui l'intéresse, c'est tout ça. D'ailleurs, les livrets, c'est pas la chose qui le passionne le plus, Rameau. Ouais. Et on voit bien que le XVIIIe siècle français, par la force de la pensée harmonique et musicale, va ralentir considérablement le récitatif. Je sais pas si on peut oser dire musicaliser le récitatif.
Ouais.
Ce qui fera que Salieri, quand il viendra à la fin du XVIIIe siècle travailler avec Beaumarchais sur Tarare, essaiera d'avoir des chanteurs qui parlent le plus possible. Il a écrit vraiment parler dans sa partition, et Beaumarchais nous raconte le travail qui a été fait par Salieri pour amener les chanteurs à parler le plus possible avec leur voix chantée. Et Beaumarchais dit, à moins d'avoir parlé complètement, Monsieur Salieri pouvait pas aller plus loin. C'est une chose qui est intéressante parce que quand Garcia au XIXe siècle parle du récitatif italien chez Rossini et chez Mozart d'ailleurs. Il dit on parle le récitatif. Et Ravel dit la même chose dans la préface de l'heure espagnole, où il dit plutôt sur le parler que sur le chanter, comme on fait dans les opéras bouffes italiens. Donc effectivement, en France, au XVIIIe, c'est autre chose qu'on travaille. Et Lully commence de ce côté-là, évidemment. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a une telle surcharge ornementale en France que la musique, oui, devient très prégnante.
Alors on va écouter justement un petit extrait pour continuer à parler de ça, parce que ça c'est vraiment un sujet passionnant. On va écouter un extrait du Dies Irae de Lully, ce grand motet.
Thank you.
Voilà, je voulais qu'on écoute vraiment juste un tout petit extrait de ce Dies Irae, un des grands motets de Lully que vous avez enregistré avec votre ensemble Les Épopées. C'est un disque qui est paru donc il y a quelques mois. Là, on est en plein dans la musique française. Et vous parliez d'un truc intéressant, c'est la surcharge ornementale. Vous l'avez poussé, vous, jusque dans le traitement des chœurs, ce qu'on fait pas toujours.
Oui. Mais et il faut le faire moins dans la musique religieuse que dans la musique profane. J'ai hâte de faire de la musique profane. Non. Si on voit ce qu'a écrit Niver, par exemple, dans le Magnificat ou pour voix seule ou ce genre d'œuvre, on voit que c'est vraiment totalement surchargé. Ce qui se passe, c'est que la partition ne peut pas avoir tout de noté. Et donc, dès le début, dans les années 1636, Mersenne parle de Titlouse et dit Monsieur Titlouse rajoute à l'orgue des tas d'ornements qui ne sont pas notés sur la partition. Et donc il faut prendre le temps, je pense, de faire ça. Et c'est toujours intéressant de se dire jusqu'où peut-on aller. Et quand on voit les transcriptions de D'Anglebert, par exemple, des œuvres de Lully, alors personnellement, à chaque fois que j'ai mis les ornements, que je pense juste déjà dans de la musique française, je vais faire un petit coucou à D'Anglebert et je m'aperçois que je suis encore très 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 en dessous.
Donc ça veut dire qu'en fait, l'esprit français, c'est un esprit qui est plus décoratif peut-être que celui des Italiens. Nous, on est un peu dans le paraître, dans l'image. C'est ça, c'était une musique qui était l'image de la société française, tout simplement.
Oui, certainement. Effectivement, on arrive à imaginer nos présidents de la République pris par des paparazzi en caleçon de bain sur une plage. On a du mal à imaginer Louis XIV en caleçon de bain sur le bassin d'Apollon, sans sa perruque, ses nœuds, ses dentelles.
Ben oui, non, mais c'est vraiment le reflet. C'est pour ça qu'il faut absolument orner le plus possible. D'ailleurs, c'est un travail que vous faites depuis longtemps dans votre classe au conservatoire à Rue de Mont-Régional de Paris, mais aussi cet été, et j'en profite pour le dire, à travers une académie, un festival que vous avez monté avec votre ensemble, les Épopées. Ça se passe où, ce festival, en un mot?
Ça se passe dans Lyon. Ça se passe entre Sens et Joigny. On sera autour d'un instrument qui est un orgue Renaissance qui date de 1568, qui est un orgue assez exceptionnel. Et voilà, c'est parce que effectivement la transmission c'est une chose extrêmement importante, le lien avec tous les habitants, puisque moi je suis né à Sens, donc le lien avec tous les habitants de la région, il est aussi extrêmement important. Donc c'était une évidence de créer une académie et un festival.
Et ce sera du 6 au 14 août. Il va être temps de se quitter. On rappelle en vitesse éclair toutes les actus de l'été, le retour du Lys en sa patrie au festival de Beaune le 24 juillet à 21h.
Il y a déjà une dizaine d'années, Kader Assisi et Anne Blanchard me disaient « Quand est-ce que tu montes ton orchestre ?» Voilà.
Et donc, d'autres concerts, vous serez aussi au clavecin dans la musique de Bach?
Oui, avec Jean-Christophe Spinozzi, une belle complicité musicale avec le concerto en ré mineur. Déjà au Festival de Beaune d'ailleurs, le 10 juillet.
Voilà, et puis le 18, un programme que vous dirigerez, d'air d'opéra, Handel, Vivaldi, Purcell, avec le contre-ténor Paul-Antoine Benos-Djian. Plein d'autres concerts, on peut pas tous les citer évidemment parce que vous avez une grosse actualité cet été. Mais on va se quitter avec un extrait de votre tout dernier disque qui était consacré entre autres aux leçons de ténèbres de François Couperin, le grand. On pourrait en parler pendant des heures, mais nous n'avons plus le temps. On va laisser parler la musique avec deux sopranos qui se mêlent magnifiquement, Florie Valiquette et Sophie Juncker. C'était avec l'orchestre de l'Opéra Royal de Versailles sous votre direction. Merci Stéphane Fugé.
À Versailles où on réalise une intégrale des grands motets de Lully d'ailleurs.
Qu'on a hâte de recevoir. On avait la première partie, mais on a hâte de recevoir la suite. Passez un bel été et bon voyage à Beaune.
Merci Clément.